présente mon pardon ce matin parce que j'avais promis, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, j'avais promis dimanche passé, à la fin du message, qu'on allait poursuivre sur la volonté de Dieu encore ce dimanche. Je vous présente mon pardon parce que voilà, j'ai changé d'orientation et nous reviendrons dimanche prochain sur ce qu'on a vu dimanche passé, notamment la volonté de Dieu sur la base de Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Nous y reviendrons dimanche prochain. Ce matin, je vous propose de méditer sur un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, versets 1 à 11. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Dans Jean 17, dans sa prière sacerdotale, au verset 8, Jésus a dit, il s'adressait au Père, il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Il est en train de prier en notre faveur, il prie en faveur des disciples. Il dit au Père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Donc ma prière aussi que voilà, nous puissions ce matin recevoir la parole de Dieu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, dit Jésus, car ils ont cru que tu m'as envoyé. Et ma prière. Amen. Lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche. » Jusqu'ici donc, la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ces juifs religieux, en tout cas toujours à la recherche de moyens leur permettant de prendre Jésus, en tout cas en défaut, pensent l'embarrasser gravement en lui amenant cette femme. Ils espèrent en tout cas le mettre en contradiction, soit avec la loi, soit avec la grâce qu'il incarne et qu'il enseigne. Il lui rappelle que Moïse a commandé de lapider justement ces pécheresses. Et toi ? Et toi donc, que dis-tu ? Or, il disait cela pour l'éprouver, justement afin qu'ils aient l'occasion de l'accuser. Alors, le piège paraissait habilement tendu. Mais qu'il croit ou non à la parole de Jésus, celui que ces pauvres juifs voulaient éprouver était bien évidemment Dieu lui-même. Alors, si Jésus conseillait de lapider cette femme, il se mettait en tout cas en opposition avec le caractère de la grâce qu'il manifestait. S'il se prononçait pour le pardon, en tout cas, il ne reconnaissait pas l'autorité de la loi donnée à Moïse. En tout cas, dans les deux cas, si Jésus décidait de la faire, les Juifs allaient porter une accusation contre lui, dans les deux cas. Car s'il décidait, surtout qu'elle devait mourir, cette femme, il pourrait l'accuser de revendiquer un pouvoir qui appartenait aux Romains, celui de la vie et de la mort. Pour commencer, alors Jésus ne dit rien. S'étant abaissé, il écrivait avec le doigt sur la terre, en tout cas comme un homme préoccupé par autre chose par rapport à ce qui se passait devant lui. Les Juifs voulaient la loi pour cette femme, et avec raison, cette loi valait aussi pour eux. Jésus l'applique donc à leur conscience dans toute sa force. D'ailleurs, il en avait le droit, il avait le droit de le faire, puisque c'est lui qui avait donné la loi au mont Sinaï à Moïse. En écrivant de nouveau sur la terre, il laisse à la lumière de sa parole le temps nécessaire de pénétrer leur conscience. Alors, nous ne pouvons plus supporter la lumière de la parole de Jésus, les accusateurs de cette femme finissent par disparaître. Voilà. Quelle sagesse Jésus a-t-il manifesté ? Frères et sœurs, un des enseignements majeurs que nous pouvons tirer de ce récit, en tout cas, dans la présence de Jésus, les choses changent toujours. Dans la présence de Jésus, les choses ne peuvent plus rester les mêmes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En effet, voyez-vous, quelle idée de vouloir lapider quelqu'un, quelle idée de vouloir jeter des pierres sur une personne en présence de celui-là même qu'on appelle la pierre vivante. Mais quelle idée ? Jésus n'est pas la pierre mourante. Une pierre, voyez, qui s'effrite, une pierre qui s'abîme au fur et à mesure que les années passent, et une pierre qui se meurt. Non, Jésus est la pierre vivante, une pierre qui a la vie en elle-même, une vie qui ne s'arrête point, une vie qui demeure éternellement. Donc, une vie, en tout cas, qui a une valeur inestimable. Gloire à l'agneau de Dieu.
Amen.
Amen.
On n'a même pas quelqu'un dans la présence de Jésus pour qu'il trouve la mort. Non, dans la présence de Jésus, il y a la vie. Mais parce qu'il est lui-même, la vie. C'est dans sa présence que l'on reçoit la vie, la vraie vie qui vient du ciel. En fait, ces scribes et pharisiens ont eu juste la mauvaise idée d'amener cette femme auprès de Jésus. Si tu veux tuer quelqu'un, en tout cas, ce n'est pas ce que je vous conseille, non. Mais si tu veux tuer une personne, ne l'amène pas auprès de Jésus. Jésus s'appelle la pierre vivante. Ils avaient en main des pierres, ces scribes et pharisiens. Mais entre les pierres qu'ils avaient entre leurs mains et la pierre vivante, c'est-à-dire dans le combat des pierres, la victoire, la délivrance, se trouve bien du côté de la pierre vivante. C'est là que se trouve le salut, la vie éternelle, du côté de la pierre vivante. Ils voulaient accuser cette femme, mais ils ont eu la mauvaise inspiration de l'amener chez celui qu'on appelle le défenseur ou l'avocat, car le mot paraclet en grec signifie en même temps défenseur, consolateur, avocat, selon l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 15 à 21. Il y a toujours un temps où ceux qui accusent disparaissent, finissent en tout cas par disparaître. Mais parce que ceux qui accusent n'ont pas toujours raison, et les accusations, en tout cas elles-mêmes, ne dureront pas toute la vie. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront point, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Le règne des accusateurs est en fait terminé avec l'arrivée de la grâce de Jésus qui est notre avocat. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, après avoir fait une démonstration de l'œuvre que Christ, en tout cas que l'esprit de Christ, notre avocat, est capable de faire dans la vie d'une personne, il s'est posé toute une série de questions qui commencent toutes par qui ? Qui ? Qui ? Romains chapitre 8, versets 31 à 35. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Dit l'apôtre Paul. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède en notre faveur. Il intercède pour nous. Frères et sœurs, Jésus est notre avocat, notre défenseur. Jésus lui-même a posé une question à cette femme. Personne ne t'a-t-il condamné ? Elle a répondu, non Seigneur, personne. Et Jésus lui a dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Frères et sœurs, ce récit nous parle entre autres de la puissance, de la présence de Dieu, l'importance de la présence de Dieu, l'impact d'être, de se retrouver dans la présence de Dieu. En tout cas, la plus grande erreur de ces scribes et pharisiens, c'est d'amener cette femme surprise en flagrant délit d'adultère dans la présence de Dieu. Ce faisant, ils l'ont en fait aidée à venir recevoir sa délivrance.
Amen.
Avant elle, toutes les femmes qui avaient été surprises, justement en flagrant délit d'adultère, étaient effectivement lapidées. Mais en ce qui la concerne, les scribes et pharisiens se sont dit, bon, nous voulons nous aussi la lapider. Cependant, amenons-la d'abord chez celui qu'on appelle Jésus. Amenons-la d'abord dans la présence de Jésus. Erreur. Erreur, ils l'ont en effet aidé à s'approcher de Dieu. La Bible déclare, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ce n'est pas un trône de jugement, de condamnation, un trône de la grâce. Lorsque tu t'approches du trône de la grâce, de la présence de Jésus, cette présence même de Jésus a la capacité d'annuler tous les cris de tes ennemis, d'annuler toutes les déclarations de malédiction prononcées contre toi. Quelle que soit la loi en vigueur, tout change dans la présence de Jésus. Dans sa présence, frères et sœurs, tout devient possible. Dans la présence de Dieu, tout devient possible. C'est là justement que les situations difficiles et impossibles trouvent et finissent par trouver leur solution. La présence de Dieu, frères et sœurs, c'est plus que tout. La présence de Dieu, c'est plus que tout. Elle est capable de t'accorder ce que personne d'autre ne peut ni ne pourra t'accorder. Il est non seulement celui qui peut tout, mais il est aussi celui par qui tout peut se faire. Frères et sœurs, cette femme pouvait être lapidée partout. Elle pouvait être rejetée partout. Mais parce qu'elle a été amenée dans la présence de Jésus, son problème a été résolu. Elle-même ne savait pas. Imaginez qu'elle dise à ses scribes et pharisiens, écoutez, tant mieux, lapidez-moi, hors de la présence de Jésus. Elle serait morte. Mais elle s'est laissée faire jusqu'à arriver dans la présence même de Jésus. Elle pouvait être lapidée partout, elle pouvait être rejetée partout, mais parce qu'elle a été amenée dans la présence de Jésus, son problème a été résolu. Dans la présence de Jésus, l'impossible devient possible. Vous voyez, Moïse ne pouvait jamais imaginer que son bâton allait un jour se transformer en serpent. Mais le jour où il s'est retrouvé dans la présence du Dieu du buisson ardent, son bâton s'est transformé en serpent. Et il a compris que dans la présence de Dieu, en tout cas des choses inimaginables sont capables de se produire. Des choses impossibles selon l'intelligence humaine. C'est dans la présence de Dieu que l'on découvre des choses que tu ne pourras pas découvrir en dehors de sa présence. C'est là que se trouve le pardon, dans la présence de Dieu. C'est là que se trouve la restauration, dans la présence de Dieu. C'est là que se trouve la vie, la vraie vie, dans la présence de Dieu. J'imagine que si cette femme pouvait témoigner, en tout cas, elle dirait que, en tout cas, ma grande joie, enfin ma grande chance, ma grande joie, oui, mais surtout la grâce de ma vie, c'est de se retrouver dans la présence de Jésus. Lorsqu'ils m'ont conduit, en tout cas, dans la présence de Jésus, les pierres qu'ils avaient en main sont tombées à terre. Et la pierre vivante, justement, m'a relevé, m'a restauré. La pierre vivante m'a réhabilité.
Amen.
Les hommes étaient pendant 4 jours en train de pleurer un certain Lazare. Mais lorsque Jésus est arrivé, celui qui était mort est revenu à la vie. Jean chapitre 11. La présence de Dieu, frères et sœurs, a la capacité de redonner la vie à un corps, ou en tout cas sans vie. Vous savez, cette histoire est bien curieuse parce que quand Jésus est arrivé au tombeau de Lazare, bon, effectivement, Lazare était dans son tombeau, et Jésus n'y est pas entré pour dire « je vais le chercher ». Il a simplement parlé. Lazare sort. Donc, lorsque Lazare était dans son tombeau, il était toujours accessible. Il était toujours accessible au Christ qui l'a appelé à revenir à la vie. En fait, si l'on comprend bien les choses, Lazare, dans son tombeau, a eu la foi. Il a eu la foi que si Jésus parle, en tout cas si j'entends la voix de Jésus, hein, sa viva vox, sans faute, je vais revenir à la vie. Et lorsque Jésus a fait entendre sa voix, en tout cas lorsque Lazare a entendu la voix de Jésus, a entendu Jésus en train de l'appeler, il est sorti dans sa présence. Il n'a pas douté en se disant, mais je suis mort. Oui, la voix de Jésus a la puissance de ramener un corps sans vie à la vie. La voix de Jésus est puissante, de sorte que même les morts sont capables de l'entendre. Il avait dit lui-même dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, au verset 25, « en vérité, je vous le dis, l'heure vient. » Et d'ailleurs, elle est déjà venue. « Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu ?» Et il ajoute, « ceux qui l'auront entendu, vivront. » Ceux qui l'auront entendu, vivront. Lui, Lazare, on a une preuve, il a entendu cette voix et il est revenu à la vie. Si réellement vous êtes une créature de Dieu, sachez que vous lui demeurez toujours accessible. Les hommes, en tout cas, sont incapables de marcher sur l'eau. Mais parce que Jésus était là, il a dit à Pierre, viens. Pierre lui avait dit, mais Seigneur, si c'est toi, je peux venir. Oui, viens, viens. Et Pierre, descendant de la barque, nous dit ce récit, a marché sur l'eau dans la présence de Jésus. À cause donc de la présence de Jésus, Pierre a accompli l'impossible, marcher sur l'eau. La présence de Jésus a la capacité de transformer l'eau de la mer qui est liquide, justement, à l'état solide mais invisible. Parce que Pierre ne marchait pas sur les blocs de glace, il marchait sur l'eau, on pouvait voir l'eau. Mais l'eau était devenue comme du béton et Pierre pouvait marcher. La présence de Jésus. Bien-aimés, les miracles se produisent dans la présence de Jésus. La grande erreur, vous voyez, commise par des chefs juifs, c'était de crucifier ce brigand dans la présence de Jésus. Ce n'était pas la première crucifixion de l'histoire. En tout cas, tous ceux qui étaient crucifiés finissaient par mourir, bien évidemment. Mais la grâce, en tout cas, de ce brigand, c'est qu'il a été crucifié là où il y avait Jésus. Et ce brigand a compris qu'il pouvait se passer quelque chose de grand, en tout cas en sa faveur. Il a eu cette inspiration de dire à Jésus, « Mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il a compris là que Jésus était un roi et qu'il allait revenir pour faire régner son royaume. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus l'a regardé et lui a dit, « Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, frères et sœurs, la présence de Jésus au fond provoque ce qu'on appelle les aujourd'hui de Dieu, les maintenant de Dieu. Dans la présence de Dieu, voyez, ce qui pouvait se faire dans 5, 10, 15, 20 ans peut s'accomplir en un jour. Peut s'accomplir en un jour. Souvenons-nous, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël est resté pendant 400 ans en esclavage en Égypte. Mais en un jour, ce peuple a reçu la délivrance avec la présence de Dieu. Oui, dans la présence de Dieu, ce qui pouvait se faire dans 10, 15, 20, 30 ans peut s'accomplir en un jour. Jésus n'a pas dit à ce brigand, on verra ça demain, après-demain, mais aujourd'hui. Donc, même la souffrance de la croix ne l'a pas empêché de faire la plus grande promesse de tous les temps. La promesse du ciel, aujourd'hui, au paradis. Cette femme a eu la grâce d'être placée dans la présence de Jésus. Alors, ce qui est intéressant et étonnant d'ailleurs, c'est qu'il est dit que Jésus s'est mis à terre. S'étant baissé, il écrivait avec le doigt sur la terre. Et on ne sait pas ce qu'il était en train d'écrire. Mais en fait, il voulait, par cette attitude, partager en quelque sorte la honte de cette femme. Il s'est mis à terre pour partager l'humiliation de cette femme. Et c'est ce qu'il fait, Jésus. Les commentateurs disent même que Jésus s'était mis à genoux, en position à genoux. Donc, vous voyez que pour cette femme, en réalité, un Dieu, finalement, s'est mis à genoux, c'était le cas. Un Dieu s'est abaissé, tout au moins, presque en situation de créateur, comme Dieu l'avait fait pour former l'homme à la poussière de la terre, mais pour donner une nouvelle vie à cette femme. Ensuite, il lui dit, va. Mais surtout, ne pêche plus, ne recommence plus, ne pêche plus. Reçois la nouvelle naissance afin de vivre désormais en se comportant véritablement comme quelqu'un qui a reçu la vie divine. En tout cas, bien aimé, que le Seigneur nous accorde la grâce d'aimer tout le temps sa présence, qu'il nous accorde la grâce de rechercher sa présence, de vivre dans sa présence. Quel privilège d'être dans la présence de Dieu. Vous imaginez, Moïse aimait la présence de Dieu plus que tout. En tout cas, que Dieu nous donne aussi d'aimer sa présence plus que tout. Au verset 7, Jésus dit, mais que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, en tout cas par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Voilà des accusateurs accusés à leur tour par leur propre conscience. En réalité, Jésus leur a démontré qu'eux aussi avaient finalement besoin de pardon, qu'ils avaient besoin de délivrance, de restauration. Mais au lieu d'en profiter et de solliciter ce pardon, le texte nous dit qu'ils se retirèrent l'un après l'autre, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Frères et sœurs, nous avons un sauveur formidable. Bien-aimés, nous avons un sauveur merveilleux, toujours prêt à nous défendre. Quel ami fidèle et tendre avons-nous ? C'est ce qu'il a fait à Golgotha. L'apôtre Paul a dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a réduit en le clouant à à la croix. Et aujourd'hui, s'étant assis sur son trône de grâce, que fait-il? Il continue à nous défendre. Il continue à intercéder en notre faveur. Alors, frères et sœurs, approchons-nous. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Amen.